Bienvenue pour cette exploration approfondie de l'économie marocaine. Aujourd'hui, on se plonge dans plusieurs articles récents de la publication EcoBusiness.
Oui.
Le Maroc, il projette une image assez séduisante. On entend parler de réduction du déficit, d'investissement vert, de records touristiques.
C'est ça.
Mais bon, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette façade? Notre mission ici, c'est de décrypter un peu les équilibres et parfois les déséquilibres. D'ailleurs, l'éditorial pose une question clé. Est-ce que cette croissance, elle profite vraiment à tout le monde? Et cette maîtrise annoncée du déficit, elle est durable. Alors, allons-y, creusons un peu.
C'est tout à fait essentiel, surtout pour une économie comme celle du Maroc, qui est un peu à la croisée des chemins, si vous voulez. Elle cherche à attirer les capitaux étrangers, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, à répondre aux besoins de sa population. Pour comprendre ça, il faut regarder au-delà des gros titres.
Commençons par la vue d'ensemble, le tableau macroéconomique. Les signaux positifs, ils sont là, on ne peut pas le nier. Le déficit budgétaire serait redescendu, autour de 3,5% du PIB.
Oui, c'est une belle amélioration.
C'est bien mieux que le pic post-pandémie, on était à plus 7%.
Tout à fait.
On annonce aussi une croissance. Quoi, plus de 4,5% pour 2025?
C'est l'objectif affiché, oui.
Et les transferts des MRE marocains, résidents à l'étranger, record absolu, plus de 82 milliards de dirhams.
C'est énorme, une vraie manne.
Ajoutez les bons chiffres du tourisme, des exportations. Le message global, c'est que le Maroc, bon, tient le cap.
Ces chiffres sont encourageants, c'est certain, mais faut tout de suite apporter des nuances.
Bah oui.
Prenons cette réduction du déficit, par exemple. Est-ce que c'est vraiment structurel ou est-ce que c'est dû en partie au moins à des facteurs plus conjoncturels?
Comme quoi, par exemple?
Le retour en force spectaculaire du tourisme après le Covid, ça joue énormément. La baisse de l'inflation mondiale aussi, ça allège le coût de certaines importations. Et puis, ces fameux transferts des MRE.
Oui, 82 milliards, c'est une bouffée d'oxygène incroyable.
Exactement. Mais tout ça, ça reste assez dépendant de la conjoncture internationale. C'est un peu fragile, quoi.
Et du côté des recettes de l'État, on parle d'une administration fiscale qui se modernise avec le numérique. Ça aide à mieux collecter, non?
Oui, oui. Il y a des progrès notables dans la digitalisation, c'est vrai. Pour les impôts, les douanes, ça améliore l'efficacité, c'est sûr. Mais les recettes de l'État, elles restent quand même très liées à ces secteurs un peu cycliques. Tourisme, les transferts MRE, la base est encore un peu volatile. Et puis, il y a toujours ce défi de l'économie informelle.
Ah oui, l'informel.
Un énorme pan de l'activité qui échappe encore largement à l'impôt, malgré les efforts. Et puis, côté dépenses, bon, la maîtrise est quand même relative.
C'est-à-dire?
La masse salariale publique, elle pèse lourd, autour de 11% du PIB. C'est considérable. Le coût des subventions sur certains produits de base. Même s'il a pu baisser, ça reste une charge. Et surtout, il y a les grands chantiers sociaux.
La généralisation de la couverture santé, les aides directes.
Voilà, c'est nécessaire, bien sûr, mais ça représente des dépenses croissantes pour le budget de l'État.
Et tout ça dans un contexte où la dette publique reste élevée.
Exactement, on dépasse les 70% du PIB. Ce qui commence à inquiéter un peu, c'est moins le niveau absolu que la tendance sur les taux d'intérêt.
L'État paye plus cher pour emprunter?
Oui, en gros, c'est ça. Les taux sur les bons du Trésor à 5 ans, par exemple, ils ont grimpé. Et il y a eu récemment une adjudication, une vente d'obligations de l'État où les investisseurs ont été un peu frileux.
C'est-à-dire?
Près de la moitié de la somme que le Trésor espérait lever n'a pas trouvé preneur aux conditions qu'il proposait.
Ah oui, d'accord. Ça montre une tension.
Ça suggère qu'il devient un peu plus difficile ou en tout cas plus coûteux pour l'État de se financer sur le marché. D'ailleurs, les besoins de trésorerie pour septembre sont annoncés en hausse.
Donc, maintenir cette dette soutenable, c'est un exercice d'équilibriste.
C'est tout à fait ça. Ça dépendra beaucoup de la croissance future et de la capacité à trouver des financements variés et pas trop chers. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette tension permanente, quoi, entre les ambitions de développement et les contraintes budgétaires bien réelles.
Parlons justement de ces ambitions. La stratégie pour attirer les investissements, par exemple. La MDI. L'Agence marocaine de développement des investissements, elle est très active à l'étranger.
Oui, elle multiplie les opérations séduction.
Le port de Tanger Med, lui, bat des records. Et on voit de gros investissements annoncés. Automobile, aéronautique, agroalimentaire. Un exemple récent qui a marqué ce financement vert de plus de 600 millions de dollars de la BRD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Oui, ce financement de la BRD est intéressant, surtout quand on regarde les conditions.
C'est-à-dire?
Une partie de l'argent doit aller en dehors des grandes villes et une autre partie doit financer des projets portés par des femmes.
C'est une bonne chose, non? Pour l'inclusion, l'égalité?
C'est louable, bien sûr. Ça vise l'inclusion territoriale, l'égalité des genres, mais ça soulève une question importante. Est-ce que le tissu économique local, surtout dans les régions moins développées, et est-ce que l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin sont prêts à absorber et à utiliser efficacement ces fonds?
C'est le défi de l'implémentation sur le terrain, quoi.
Exactement. C'est souvent là que le bât blesse.
Et au-delà de l'argent lui-même, est-ce que la gestion de ces grands projets pose question parfois?
Absolument. Les sources évoquent des défis assez récurrents, vous savez. Les délais qui s'allongent, une certaine lourdeur administrative.
Le manque de coordination entre les agences.
Parfois, oui. Et puis, des questions sur la transparence, sur l'évaluation réelle des résultats. Il y a aussi ce risque de greenwashing.
Ah, le fameux greenwashing. Mettre une étiquette verte sans que l'impact soit vraiment là.
C'est un peu ça, oui. Mais surtout, le point crucial, c'est que cette attractivité, elle doit bénéficier à l'ensemble de l'économie marocaine.
Oui.
Si ces grands investissements étrangers créent des sortes d'enclaves, sans entraîner dans leur sillage les PME marocaines, ben on risque d'accentuer ce qu'on appelle une économie à deux vitesses.
Alors justement, comment ces grandes tendances se voient concrètement dans les secteurs clés? Prenons la logistique. Il y a eu ce gros contrat entre BLS, un acteur international, et Varun Beverages Morocco, l'embouteilleur de PepsiCo.
Oui, pour une immense plateforme près de Casablanca.
C'est un signe fort, ça, non? L'ambition du Maroc comme hub régional.
C'est un signe, oui, que le Maroc intéresse les géants mondiaux du secteur, mais attention à l'arbre qui cache la forêt.
C'est-à-dire?
Si Tanger Med est une réussite incontestable à l'international, la logistique à l'intérieur du pays, elle, reste un énorme défi. On estime que les coûts logistiques représentent près de 20% du PIB marocain.
20%, c'est énorme!
C'est beaucoup trop élevé et ça pèse sur la compétitivité de toutes les entreprises. Il y a un besoin criant de moderniser les infrastructures partout, pas seulement autour des grands ports ou des grandes villes.
Il faut digitaliser aussi, j'imagine.
Oui, digitaliser les processus. On parle d'IoT, d'IA, de blockchain pour sécuriser les flux. Mais il faut aussi former la main-d'œuvre et rendre le secteur plus durable.
Entrepôts verts, transports propres.
Voilà. Les multinationales peuvent tirer le secteur vers le haut, c'est vrai. Mais la question clé reste, comment on fait pour que les PME marocaines s'intègrent et bénéficient de ces chaînes logistiques modernisées?
C'est sûrement un sujet qui sera au cœur du prochain forum Logitaire à Casablanca.
Très probablement, oui.
Un autre secteur qui fait beaucoup parler, le tourisme. Les chiffres donnent le vertige. On parle de 13,5 millions de visiteurs fin août 2025. C'est plus 15% par rapport à l'année d'avant.
Oui, la reprise est spectaculaire.
Qu'est-ce qui explique ce boom? La stabilité du pays? La promotion de l'ONMT?
C'est un mélange de facteurs, effectivement. La stabilité, une image positive, la diversification des marchés émetteurs, les grands événements organisés au Maroc, et puis une stratégie de promotion assez agressive de l'ONMT, oui.
La croissance est là.
Elle est là. Mais la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que c'est une croissance durable? Le tourisme, par nature, c'est très sensible à la conjoncture mondiale. Une crise économique ailleurs, une instabilité géopolitique, et les chiffres peuvent chuter très vite.
Et puis, il y a la concentration géographique, non? Marrakech, Agadir.
Exactement. Ces deux villes captent une part énorme des flux. Il y a un vrai besoin de développer d'autres formes de tourisme. Le rural, l'écologique, le culturel, le tourisme de santé, et puis d'autres régions aussi, comme l'Atlas ou le Grand Sud.
Sans parler de l'impact social et environnemental.
Bien sûr. L'impact social n'est pas toujours équitablement réparti. Et la pression environnementale est réelle. La consommation d'eau, la gestion des déchets, l'empreinte carbone. Le défi, c'est de construire un modèle touristique plus résilient, plus inclusif et plus respectueux de l'environnement.
Et puis, il y a cette histoire assez étonnante dans l'agriculture. Le succès phénoménal de la pastèque marocaine à l'export.
Ah oui, la pastèque.
Les ventes vers l'UE ont explosé. On a dépassé l'Espagne en valeur, 162 millions d'euros sur les 6 premiers mois de 2025. Apparemment, la qualité est reconnue, le prix moyen est plus élevé que l'espagnol.
C'est un triomphe commercial, c'est vrai. Ça montre un savoir-faire agricole marocain sur certains créneaux. Mais, c'est aussi l'exemple parfait d'un succès qui a un coût caché. Et un coût lourd.
Lequel?
L'eau. Continuer à exporter massivement notre eau virtuelle sous forme de pastèque, ça pose une question fondamentale de durabilité.
Et il n'y a pas que l'eau, j'imagine.
Non, il y a aussi le coût social. Les conditions de travail des ouvriers agricoles saisonniers dans ce secteur sont souvent très précaires. Longues journées, bas salaires, manque de couverture sociale.
Donc, ce succès commercial est à nuancer fortement.
Il faut le regarder avec beaucoup de prudence, oui. Le défi, ce n'est pas tant de produire plus, mais de produire mieux, de manière plus économe en eau et socialement plus juste.
Ce qui nous ramène directement à la question de l'éditorial. La croissance, pour qui ? Les sources soulignent une stagnation du pouvoir d'achat pour beaucoup de Marocains depuis 2014, après une période de progrès.
Oui, c'est un constat partagé.
L'écart se creuserait entre l'évolution des salaires et celle du coût de la vie. Surtout pour l'alimentation, le logement, la classe moyenne serait sous pression.
Cette stagnation, ce n'est pas un hasard. Elle est liée à des problèmes bien structurels de l'économie marocaine.
Comme ?
D'abord, une faible productivité globale du travail. Ça freine la capacité des entreprises à augmenter les salaires de manière significative. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dualité du marché du travail.
C'est-à-dire ?
D'un côté, vous avez un secteur moderne, exportateur, assez performant, mais qui, finalement, crée proportionnellement peu d'emplois. Et de l'autre, un immense secteur informel, peu productif, où les salaires sont bas et les conditions de travail précaires.
Et les transferts des MRE, même records, ne suffisent pas.
Ils ne peuvent pas tout compenser. C'est une aide vitale pour des millions de familles, c'est vrai. Mais cette manne est inégalement répartie et elle reste très dépendante de la situation économique dans les pays d'accueil, en Europe notamment.
Pourtant, les chiffres montrent aussi des progrès réels contre la pauvreté. La pauvreté extrême, elle a quasiment disparu.
Oui, ça c'est une avancée majeure.
La pauvreté absolue a été réduite, même s'il y a eu un léger rebond après les crises récentes, Covid, inflation. Et l'indice de développement humain, l'IDH, place le Maroc dans la catégorie élevée.
Ces progrès sont indéniables, il faut les saluer. Mais en même temps, on observe une augmentation de ce qu'on appelle la vulnérabilité.
La vulnérabilité ?
Et la perte d'un emploi.
Et ce groupe augmente.
Oui, il concernerait près de 5 millions de personnes et de plus en plus en milieu urbain, ce qui est un phénomène assez nouveau.
Et face à ça, les réponses de l'État, le registre social unifié, les aides directes, la couverture santé généralisée, c'est important même.
Mais ça agit surtout comme des amortisseurs sociaux. C'est nécessaire, mais ça ne s'attaque pas aux racines profondes du problème. Le manque de création d'emplois de qualité et la faible productivité structurelle.
Et les inégalités, elles, elles semblent tenaces.
Oui, l'indice de Gini, qui mesure cet écart entre riches et pauvres, il est reparti à la hausse récemment après une période de baisse.
Ah bon ?
Oui.
Et si la pauvreté multidimensionnelle, qui inclut l'accès à l'éducation, la santé, les services de base, recule au niveau national, elle reste très présente en milieu rural.
Souvent liée aux difficultés d'accès à une éducation de qualité, d'ailleurs.
Et la question de l'égalité femmes-hommes ?
Des avancées existent, oui. En politique, la représentation a progressé, la scolarisation des filles aussi, mais le taux d'activité des femmes reste incroyablement bas.
Autour de 19%, c'est ça ?
Oui, à peine 19%. C'est un potentiel économique et social immense qui est largement sous-utilisé.
On a aussi évoqué le défi des PME. Elles forment pourtant l'essentiel du tissu économique marocain.
Plus de 90% des entreprises, la majorité des emplois, une part significative du PIB. Mais elles restent souvent fragiles.
Elles ont du mal à accéder au financement.
À innover.
Exactement. Elles peinent à monter en gamme. Et elles subissent de plein fouet la concurrence des grands groupes, y compris étrangers. On l'a vu avec l'exemple de la logistique.
Donc il faudrait une politique industrielle plus ciblée pour elles.
Il y a un besoin urgent d'une politique qui les intègre vraiment, qui les aide à se moderniser, à accéder au marché. Peut-être via des clauses de préférence locale dans les grands projets, publics ou privés.
On voit quand même des réussites dans l'automobile, l'aéronautique. Oui, quelques succès existent où des PME marocaines sont devenues des fournisseurs de rang mondial. Mais ça reste trop limité, ce sont encore des exceptions. C'est pourtant essentiel si on veut éviter ce Maroc à deux vitesses qui est souvent évoqué, y compris au plus haut niveau de l'État.
Dernier volet de notre exploration, le virage technologique. Et en particulier l'intelligence artificielle, l'IA. Le Maroc semble vouloir prendre le train en marche ?
Oui, il y a une volonté affichée.
On voit des initiatives, une chaire universitaire dédiée à l'IA, un projet de plateforme nationale d'IA qui se veut respectueuse des droits. Le potentiel est là pour l'agriculture, la santé, l'industrie.
L'ambition est là, c'est clair. Le potentiel est réel, bien sûr, mais les obstacles sont considérables.
Le premier, c'est les compétences.
Oui, le déficit de compétences. Il faut former massivement des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs en IA. Mais il faut aussi réussir à les garder au Maroc, éviter la fuite des cerveaux.
Et ce manque de compétences, ça touche aussi les PME, j'imagine.
Évidemment. Comment peuvent-elles adopter l'IA si elles n'ont pas les talents nécessaires? Deuxième grand défi, la fracture numérique.
Entre ville et campagne?
Oui. Déployer des solutions d'IA sophistiquées risque de creuser encore l'écart entre les zones connectées et celles qui le sont moins.
On a cet exemple de 20 doctorants marocains partis se former chez le géant chinois Huawei, en immersion dans leur labo d'IA, leurs usines intelligentes. C'est une bonne chose, non? D'aller chercher le savoir là où il est.
C'est une opportunité, bien sûr, d'accéder à une technologie de pointe. Mais ça illustre aussi un dilemme stratégique.
Lequel?
Est-ce qu'on se contente d'importer la technologie et la dépendance qui va souvent avec? Ou est-ce qu'on construit notre propre capacité, notre propre vision? Le risque, c'est une forme de colonisation numérique douce, quoi. On adopte les standards, les outils des géants étrangers.
Sans développer une expertise locale forte.
Voilà. Le Maroc a besoin de diversifier ses partenariats et surtout de définir quel type d'IA il veut développer. Peut-être une IA moins spectaculaire, mais plus axée sur ses besoins fondamentaux. La gestion de l'eau, l'agriculture durable, l'accès à la santé pour tous.
Utiliser l'IA comme un outil de souveraineté, en fait.
Plutôt que de dépendance, oui.
Sans oublier les risques sociaux et éthiques.
Évidemment. L'automatisation que permet l'IA, ça menace directement des emplois dans des secteurs importants pour le Maroc. Le textile, les centres d'appel.
Il faut anticiper ça.
Si on n'anticipe pas avec des plans de formation, de reconversion massifs, l'impact social pourrait être très dur. Et puis, il y a toutes les questions éthiques, les biais dans les algorithmes qui peuvent reproduire les discriminations, les risques pour la vie privée, la surveillance, la protection des données personnelles.
Et le cadre légal marocain, il en est où là-dessus?
Il est encore très embryonnaire. C'est un chantier prioritaire si on veut que cette technologie soit développée de manière responsable et maîtrisée.
Alors, si on essaye de résumer un peu cette exploration, on a d'un côté un Maroc qui est incontestablement dynamique, attractif pour les investisseurs, qui modernise certains secteurs, qui affiche des succès notables comme dans le tourisme.
Oui, cette facette est bien réelle.
Mais de l'autre côté, des fragilités qui persistent. Une dette publique élevée qui rend le financement de l'État plus tendu. Une croissance dont les fruits ne semblent pas profiter à tous de la même manière. Ce pouvoir d'achat qui peine à progresser pour beaucoup, ces PME qui luttent pour suivre le rythme.
Exactement.
Et puis, cette tension constante entre le développement économique et la préservation des ressources. L'exemple de la pastèque est frappant là-dessus.
C'est exactement cette complexité, cette tension permanente entre les avancées et les défis structurels qui ressortent des sources. Ouais. Le Maroc navigue avec une certaine habileté, c'est vrai, dans un environnement mondial qui est très mouvant, mais son modèle de développement cherche encore son point d'équilibre. Un équilibre qui soit à la fois durable et inclusif.
Et pour ouvrir une dernière perspective...
Eh bien, les articles mentionnent aussi, en passant, les inquiétudes qui montent ailleurs dans le monde. On parle des débats sur la soutenabilité de la dette publique en France, par exemple, ou des pressions politiques qui pourraient peser sur l'indépendance de la Banque centrale américaine, la Fed.
Ah oui?
Oui, avec des personnalités comme Christine Lagarde à la BCE ou Andrew Bailey à la Banque d'Angleterre qui expriment leurs préoccupations face à d'éventuels changements politiques aux États-Unis.
Et quel est le lien avec le Maroc?
Ça nous ramène directement à une question essentielle pour le Maroc. Comment ces incertitudes économiques et politiques chez ses grands partenaires, une remontée des taux d'intérêt mondiaux, une instabilité potentielle en Europe ou aux USA, comment tout cela pourrait impacter la capacité du Maroc à financer sa propre dette et à maintenir son cap économique?
Intéressant.
Ça souligne à quel point l'équilibre marocain, qui est déjà délicat en interne, est aussi très dépendant finalement des vents qui soufflent à l'extérieur. C'est une réflexion, je pense, à garder en tête pour comprendre les enjeux des mois et des années à venir.